on est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Chez 7 milliards de voisins, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, ce sont des conseils pour vous, les parents, à retrouver d'ailleurs en podcast. Et aujourd'hui, nous sommes avec le psychologue Ibrahima Girou. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Quand un psychologue juge le système éducatif de son pays ou du continent africain, c'est toujours intéressant. À quoi devrait ressembler le prochain système éducatif dans les pays en développement? C'est la question qui vous intéresse en ce moment. Quelles seraient, à vos yeux de psychologue, les réformes nécessaires pour que l'école puisse jouer pleinement son rôle de développement d'un pays?
Emmanuel, disons que quand on regarde les programmes éducatifs en Afrique depuis le préscolaire, il faut dire clairement, on est envahi par un sentiment de gâchis.
Du gâchis, et pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique, hein.
Ben, disons, Emmanuel, un grand gâchis, parce qu'une partie importante de la violence que subissent nos enfants à l'école vient de ce que l'école, notamment en Afrique, ne s'est toujours pas émancipée de la colonisation. On a des maîtres qui dictent les choses et des élèves qui n'ont que des droits résiduels, de petits droits. Du gâchis parce que l'on enseigne à nos tout-petits dans une langue qu'ils ne comprennent pas, alors que leurs langues maternelles sont plus adaptées à leurs besoins de développement de manière générale. Du gâchis également, Emmanuel, parce que des enfants continuent d'avoir de mauvaises notes, non pas parce qu'ils sont stupides, pardonnez-moi l'expression, mais parce qu'ils ne comprennent pas la langue dans laquelle ils sont évalués. Du gâchis aussi parce que l'éducation aux valeurs citoyennes, aux règles de la vie sociale, passe mille fois mieux en langue nationale que dans n'importe quelle autre langue étrangère au milieu, Emmanuel.
Et qu'est-ce que vous répondez, Ibrahima Girou, à ceux qui, y compris parmi les Africains, pensent que l'enseignement dans les langues nationales, notamment en Afrique, est une perte de temps parce qu'à un moment donné, il faudra de toute façon arriver sur la langue française ou la langue anglaise ou la langue portugaise?
Ce n'est pas scientifique ce qu'il donne comme argument. Prenons un exemple très concret de l'apprentissage et du comptage. En Wolof, par exemple, une langue du Sénégal, le jeune Babacar n'a besoin de retenir que 5 unités. Ben, qui veut dire 1, Nyar, qui veut dire 2, Nyet, qui signifie 3, Nyent, qui signifie 4, et Djuroum. Djuroum qui signifie 5. Pour faire 6, on dit Djuroum Ben, c'est-à-dire 5 et 1. Pour faire 7, on dit Djuroum Nyar, c'est-à-dire 5 et 2, et ainsi de suite pour aller jusqu'à 10. Donc la base de comptage, elle est très transparente, elle est rigoureuse, elle est régulière. Et les opérations mathématiques commencent très très tôt en Wolof. En français, par exemple, la base de comptage n'est audible qu'à partir de 17. On entend 10 et 7.
Ouais.
Et les opérations commencent très tardivement.
Ouais, parce que pour un enfant, 16, c'est compliqué à comprendre que c'est 10 plus 6. Ça ne s'entend pas comme chez vous en Wolof, avec les 5 unités qui se répètent ensuite.
Vous voyez, donc il n'y a que 5 petites unités à apprendre et les opérations mathématiques commencent. Donc le jeune Africain peut commencer les mathématiques depuis l'âge de 2-3 ans dans sa langue et on lui fait perdre 27 mois s'il doit apprendre dans une autre langue en classe de CP, en cours préparatoire. Et on en arrive à ce que le préscolaire n'est plus une chance en réalité, mais un risque de sous-développement intellectuel et psychologique pour nos enfants.
Alors est-ce qu'il existe, selon vous, des choses simples qui permettent au système éducatif en Afrique d'être plus performant? En principe, dans plusieurs systèmes, on est censé commencer l'école en langue nationale et le français arrivant après, normalement.
Ben disons, il faut qu'il y ait énormément de courage politique pour aller résolument vers les langues nationales. L'idée que l'on ne peut pas enseigner certains concepts dans les langues négro-africaines, ça relève vraiment de la pure fantaisie. La première réforme consiste à créer, à l'instar du Maroc, que je voudrais féliciter, un institut national pour le développement humain. Cet institut serait doté de ressources financières conséquentes et des spécialistes compétents pour proposer un profil ambitieux de ressources humaines, avec des compétences très étendues sur le plan psychologique, moral, technique et managériel. Ça, c'est très important que les pays africains puissent se projeter et dire quel profil ils veulent dans 5 ans, dans 25 ans, par rapport à ce qu'exige le monde aujourd'hui. Enfin, l'école ne doit plus commencer par l'enseignant, Emmanuel. C'est la grande réforme. Il faut que l'école commence par le parent. Les parents sont les premiers éducateurs. Et il ne fait aucun doute qu'ils donnent aux enfants ce qu'aucun service de l'État, y compris l'école, n'est en mesure de donner en termes de préparation du leadership.
Alors, pour remettre à plat les systèmes éducatifs sur le continent, quelle est la question à méditer, Ibrahim Agirou ?
Emmanuel, comment peut-on encore garder la portion congrue aux parents quand ce sont eux qui construisent les fondations de la confiance en soi et du leadership dans les ressources humaines bien avant l'école?
Merci Ibrahim Agirou. Tous ces conseils et ces grandes visions de l'école sur le continent africain sont à retrouver dans notre série de podcasts Parents, enfants d'ici et d'ailleurs sur les plateformes de téléchargement. Et bien sûr, faites suivre, faites connaître, partagez les conseils d'Ibrahim Agirou. Merci aussi au studio à Dakar, Meymouna Diop à la technique, dans le studio de RFI, Mandinkan et Foulfoulde. À très bientôt, Ibrahima.
Au revoir, Emmanuel.